Bienvenue sur Art Talks, un podcast qui explore de manière non chronologique mais divertissante les plus grandes tendances et phénomènes de l'histoire de l'art. L'art est la trace de notre passage sur Terre ? Alors déconstruisons certains de ces grands mythes, sans tabou, en arrosant de musique, de pop culture et d'un peu d'humour.
Grâce, symétrie et sensibilité. On baigne ce matin dans la sensibilité.
Découvrez ou offrez Art Talks aussi en format coffret. Dans des coffrets assemblés main, tirés en 100 exemplaires numérotés et signés, retrouvez un livre d'art, la série de podcasts et 10 œuvres satiriques en lien avec la série. Chacune de ces créations est réalisée par Jean Vergès et invite à une réflexion décalée du sujet.
Des artistes comme toi, je fais un coup de pompe dans le piano, il en dégravelle une douzaine.
Confidence, pas confidence, des connards comme vous. Je fais un coup de pompe dans la télé et en dégringole 50.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Aujourd'hui, on parle de l'art de l'ailleurs. Toutes ces fois où, dans l'atelier des artistes, se jouait un ballet d'inspirations diverses et où, dans la jungle de ses accolades, se crée tantôt le ciment des peuples et tantôt l'ouragan des passions. Gardez juste en mémoire la phrase que je viens de dire, car aujourd'hui, dans l'art de l'ailleurs, ce qui nous intéresse principalement, ce sont les métissages de culture et d'art. Toutes ces fois où l'autre et l'ailleurs n'ont pas été perçus comme des sources d'altérité et d'opposition, mais au contraire comme des sources d'émulation. Et au risque d'enfoncer une énorme porte ouverte, notre culture, elle est faite de ces métissages. Et d'ailleurs, la phrase que je vous ai dite tout à l'heure, eh bien, elle est entièrement composée de mots d'origine étrangère. Ailleurs, par exemple, vient de l'indo-européen helios, transmis au grec allos, transmis au latin allus, devenu ailleurs en français. L'atelier et le ballet sont probablement d'origine perse, transmis par les grecs, les latins et les italiens. La jungle vient de l'hindi jangal, tandis que le ciment vient de l'arabe siman, et que l'ouragan vient de l'amérindien huracan, transmis ensuite par l'espagnol. Et paf dans ton pif! Tout ça pour dire que l'histoire mondiale, c'est un grand roman fraternel avec par moments des abrutis qui se font la guerre par cupidité ou par fantasme idéologique.
Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Des gentils, des doudous, des géants, des tout fous. Un bisou sur la joue, un bisou dans le cou. Car mon petit bisounours, il adore les bisous.
Alors ce genre de considérations très humanistes et fraternelles peuvent vous sembler niaises. Je sais qu'elle a ses limites et ses contre-exemples. Et que, eh bien, dans nos fictions, que ce soit par les médias, les arts, les systèmes politiques ou plein d'autres choses encore, il y a souvent « nous » et « eux ». C'est-à-dire une altérité entre ce qui se passe ici et ce qui se passe ailleurs, dans un endroit où on ne parle pas la même langue, où on n'a pas la même couleur de peau, où on n'a pas les mêmes coutumes, et où finalement il y a une part d'inconnu et de fantasme qui se passe ailleurs. L'objectif de ce podcast, c'est de vous montrer que cette altérité entre ici et ailleurs est loin d'être vraie et absolue, et que de l'Égypte vers la Grèce, de la Grèce vers l'Asie, de l'Asie vers la Méditerranée, de l'Europe vers l'Afrique, eh bien l'histoire est bercée de transferts et de métissages culturels très très beaux. Laissez-moi vous donner un exemple. Il était une fois en Grèce un peintre qui vivait vers l'an 730 avant Jésus-Christ. On le surnomme le peintre de Hirschfeld. Et il a peint un vase qu'on appelle un cratère. C'est une sorte de grand récipient dans lequel on mélangeait l'eau et le vin. Oui, parce que le petit rouge grec avait une tendance à vous mettre au tapis illico presto si vous ne le diluiez pas un petit peu dans l'eau. Et sur ce cratère, le peintre de Hirschfeld a peint des personnages, des animaux et des motifs géométriques que beaucoup d'historiens ont trouvés très égyptiens. Eh oui, tous ces motifs sont peints de profil, avec les épaules de face, le visage de profil, et toutes ces représentations, que ce soit des chevaux, que ce soit des motifs géométriques, sont presque identiques à certains que l'on peut voir dans des tombes égyptiennes. Alors, depuis, la trace de ces influences entre Égypte et Grèce a un petit peu été perdue, et de nombreux historiens réfutent aujourd'hui cette théorie. Pourtant, à cette époque, l'Égypte est la civilisation la plus avancée du monde, et on sait qu'elle a eu de nombreux contacts avec les Grecs. Tous deux étaient des peuples navigateurs et commerçants, et beaucoup de documents attestent de contacts à partir, grosso modo, du 8e siècle, et il est très probable qu'il y ait eu des contacts encore bien antérieurs à cela. Plusieurs auteurs et chercheurs, notamment Martin Bernal avec le livre Black Athena, ou encore Sheikh Anta Diop avec Nation Nègre et Culture, et finalement encore avec Dipesh Chakrabarty avec Provincialiser l'Europe, ont postulé l'idée que la culture européenne, dite classique, celle qui est héritée par les Grecs et les Latins, a en réalité des sources bien plus anciennes. L'Égypte et l'Afrique en premier lieu, et la Mésopotamie et les civilisations assyriennes également. Ces auteurs montrent en fait, et c'est très intéressant, comment est-ce que la culture dominante d'aujourd'hui est victime d'une forme de européanocentrisme, au cas où on ne le savait pas, et qui serait née de ce qu'on a souvent appelé le miracle grec, comme si cette culture avait été créée ex nihilo pour illuminer le monde, et s'était autoconstituée, niant au passage tout l'héritage des civilisations africaines et asiatiques. Voilà, ça c'est pour poser les bases des métissages culturels dans l'Antiquité. Parmi les autres métissages très visibles, et en fait je refais un petit détour par l'Antiquité, il y en a un qui est particulièrement surprenant et que j'aime beaucoup. C'est ce qu'on appelle le gréco-bouddhisme. Grosso modo, il était une fois Alexandre le Grand, qui, du haut de sa trentaine d'années, était à la tête du plus grand empire de l'Antiquité. Il s'étendait de la Grèce jusqu'en Inde, englobant l'Asie centrale et une grande partie de la péninsule arabique et de l'Égypte. Mais il faut savoir que Alexandre n'était pas un conquérant comme les autres. Son rêve, c'était pas la conquête de nouveaux territoires. C'était de fusionner les cultures, de jeter des ponts entre l'Asie et l'Europe. Et c'est un sentiment qui est assez bien transmis dans le film Alexandre, sorti en 2005.
Je vous ai conduit plus loin que mon père n'en rêva jamais. Jamais. Car c'est un nouveau monde. Reviens à la raison, Alexandre! Prétends-tu en faire nos égaux en leur accordant une bonne part de nos richesses? Par Zeus et tous les dieux, en quoi leur es-tu supérieur? Toi et tes semblables, vous vous croyez meilleur que vous n'êtes en réalité. Ce qui me trouble le plus, au-delà du dédain que vous professez pour mon jugement, c'est votre mépris pour un monde bien plus ancien que le nôtre.
Alors, à la mort d'Alexandre, son empire est divisé entre ses généraux. Chacun va cultiver l'héritage d'Alexandre dans une région du monde. Et Ptolémée, qui est un de ses généraux, va ainsi devenir le premier pharaon grec. La dernière étant, comme vous le savez, Cléopâtre.
Qu'est-ce soit hier, Aujourd'hui, mon peuple est le plus grand de tous les peuples.
Dis donc, ton peuple, t'es quand même grec au départ, alors comme égyptienne de souche, j'ai vu mieux, excuse-moi.
Et en Asie centrale, un certain Séleucos s'installe dans un territoire à cheval entre l'Inde et l'Afghanistan, où le bouddhisme fleurit déjà depuis plusieurs siècles. Et Séleucos, il est né en Macédoine, et il est venu avec la tradition de l'art grec. Et il la transmet au bouddhisme, et ça va infuser pendant des siècles. Et du coup, eh bien, pendant presque 800 ans, il y a un syncrétisme culturel extraordinaire qui se crée. J'ai le souvenir notamment d'aller au musée de Tokyo, il y a quelques années, et de me retrouver face à un Bouddha qui m'avait beaucoup ému. Sur un fond noir, dans une demi-pénombre, un spot lumineux est braqué sur un Bouddha, debout, de taille réelle. Il a un drapé d'une grande complexité qui ondoie et souligne l'anatomie de son corps. Son visage, lui, est parfaitement symétrique, parfaitement modelé, aux traits très fins. Et sur sa tête, dans une rivière de marbre imitant sa chevelure, est noué un chignon typique de la coiffure bouddhiste. Tandis que derrière lui est sculpté un grand disque de marbre qui auréole sa tête. Sa main est délicatement sculptée et se referme dans un mouvement calme. L'anatomie est juste. On sent la volonté du sculpteur de vouloir imiter le réel, loin des canons bouddhistes de l'époque, mais tout en respectant l'iconographie du sujet. Voilà. Voilà un exemple très visible de métissage culturel, de transfert à la fois artistique et intellectuel entre des régions du monde qu'à l'origine tout séparait. Mais la vérité, c'est que bien souvent, ces transferts culturels, ils ont été très discrets, ils sont très difficiles à percevoir. Ils travaillent par d'infimes touches qu'il nous est très difficile d'observer tant elles ont infusé pendant des siècles. Que dire des innombrables transferts culturels de la Chine vers le Japon ou du Japon vers la Chine, de l'Afrique avec le Moyen-Orient? Et que dire du miracle de la Méditerranée, car cette mer n'a jamais cessé d'être une zone d'échange et de rencontre. Et pendant le Moyen-Âge, cet échange culturel, il n'a pas cessé de s'intensifier avec l'arrivée des Arabes en Sicile et en Espagne, via le commerce de la République de Venise aussi, ou avec les chrétiens d'Orient, de Byzance, ou encore avec la route de la soie. Et même les conquêtes militaires sont des occasions de rencontres. Et, mis à part la violence des conflits, la conquête de la Grèce par l'Empire ottoman, ou alors encore les croisades, ou la conquête de l'Espagne par les Arabes, sont des périodes d'échange et d'inspiration super intenses et super riches. Et cette richesse méditerranéenne, cette rencontre intellectuelle et parfois amoureuse, eh bien, ça m'a fait penser évidemment à cette sublime chanson de Balavoine, l'Aziza, et qui était une sorte d'hommage à son épouse Corinne, d'origine juive et marocaine, à un moment où le Front National gagne de plus en plus d'importance en France. En fait, ce que j'essaye de dire derrière cette chanson et derrière ce laïus sur la Méditerranée, c'est qu'on peine à voir toutes les influences croisées qui ont pu se jouer dans le domaine de la science, de la politique ou des arts. Par exemple, je suis intimement convaincu qu'un grand nombre de cathédrales gothiques ont emprunté des formes architecturales à l'islam. Et notamment les arcs-boutants dentelés avec les petits arcs de cercle. Je pense aussi à la surcharge de détails et d'arabesques partout, à l'apparition de nouveaux motifs floraux et géométriques. Tout ça semble avoir une très forte inspiration arabe. Mais, quand bien même ce serait discutable dans les cathédrales, il y a en revanche un pays où cela ne fait aucun doute, c'est l'Espagne. Et il y a même un nom très joli pour désigner le métissage culturel qu'ils ont reçu. Il s'agit du style hispano-mauresque. Hispano-mauresque. C'est un style artistique et décoratif, surtout architectural d'ailleurs, qui s'est développé en Espagne grâce à l'occupation des Arabes de l'an 711 à l'an 1492, c'est-à-dire pendant quand même environ 800 ans. Et pendant toute cette période, l'Espagne était divisée en deux. Une partie catholique au nord, une partie musulmane au sud. Et pendant toute cette période, il y a de nombreux catholiques qui sont restés en terre musulmane malgré la conquête, et de nombreux musulmans sont restés en terre catholique malgré la reconquête. Et du coup, ça a donné naissance à un style très hybride, fait d'architecture romane couverte de décorations islamiques, un art du jardin venu d'Afrique avec des nouvelles variétés de plantes et de fruits, une nouvelle manière de concevoir l'art du paysage et l'art de la nature. On voit apparaître aussi des nouvelles techniques dans le travail du métal, par exemple avec ce qu'on appelle le damasquinage. Damasquinage qui consiste à incruster des fils de cuivre, d'or et d'argent sur du métal, et qui est une technique qui vient de la ville de Damas. On peut penser aussi aux faïences qui tout d'un coup voient apparaître des arabesques, dont le nom même est assez représentatif de son origine arabesque. Voilà. Voilà l'art de l'ailleurs qui féconde l'Europe, qui nous offre ces métissages culturels absolument sublimes et qui féconde le monde arabo-musulman aussi.
Nous avons besoin de vous sur place, d'un expert, un spécialiste du monde arabo-musulman.
Arabo-musulman.
Allez, pour illustrer cette rencontre, j'ai découvert récemment ce titre de Daft Punk de Mashrou Leila et Nile Rodgers, qui est, je trouve, assez jouissif. En retour de toutes ces influences arabes que l'Europe a reçues, l'Europe a aussi, notamment pendant la Renaissance, développé des techniques qui vont considérablement s'exporter. La perspective, par exemple. Et oui, l'Italie, et a fortiori l'Europe du Nord, mais surtout l'Italie, invente la perspective en peinture. Ce qui est assez dingue quand on y pense. La perspective linéaire, par exemple, qui consiste à avoir un point de fuite vers lequel convergent toutes les lignes. La perspective atmosphérique, qui consiste à estomper les contrastes des objets lointains. Et puis il y a aussi la perspective anatomique, c'est-à-dire une manière de représenter un corps humain ou un membre du corps avec des angles de vue variés en contre-plongée par exemple. Et cette invention de la perspective, elle se met à émerger un peu partout. J'ai notamment le souvenir de voir des miniatures moghols du XVIe siècle qui ressemblent, à s'y méprendre, à des petits tableaux italiens. Laissez-moi vous en décrire une, que vous pouvez d'ailleurs aller voir sur le compte Instagram de Art Talks, art.talks.podcast. Elle représente Majnun et Layli. Est-ce que vous connaissez cette histoire? C'est l'une des plus belles histoires d'amour jamais racontées. Dans le désert d'Arabie, un poète nommé Kays aime Layli passionnément. Envoûté par la beauté de celle-ci, il chante son amour à la face du monde. Perçu comme un déshonneur par le père de Layli, cette déclaration publique interdit tout espoir de mariage. Privé de son aimé, Kays sombre dans la folie et devient Majnun, le fou en persan. Un surnom revendiqué, un destin. Son amour pour Layli change Majnun à tout jamais. Il quitte sa famille, se réfugie dans le désert, renonce aux nourritures terrestres pour vivre à travers la poésie de son unique passion. Peu à peu, la beauté de Layli devient, pour Majnun, la manifestation de la beauté divine. L'invisible devient visible. L'absence se transforme en présence. L'amour habite pour l'éternité. Voilà en quelques mots l'histoire de Layli et Majnun, qui est l'un des poèmes d'amour, l'une des histoires d'amour les plus sublimes et partagées par toute la civilisation perse et arabique.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Alors, l'influence de l'Europe sur les arts étrangers, lorsqu'il s'agissait de métissage et pas de domination, elle se manifeste aussi d'une autre manière. C'est par le marché de l'art et par les collectionneurs européens. Alors, je précise quand même que c'est un marché relativement à sens unique, dans le sens où les peuples africains, ottomans, asiatiques n'ont pas du tout, ou pas à ma connaissance, ou quasiment pas collectionné d'art européen. La production européenne n'a donc jamais beaucoup cherché à s'adapter au goût étranger. Mais l'inverse, par contre, n'est pas du tout vrai. De la Côte d'Ivoire jusqu'au Japon, en passant par la ferronnerie orientale et la porcelaine chinoise, de nombreux centres de production artistique ont adapté leur art au goût européen, en créant des nouvelles œuvres, très métissées, pleines d'inspirations croisées, et souvent très 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 belles. Avez-vous déjà entendu parler des ivoires afro-portugais ? Au XVIe siècle, les Portugais sont de grands navigateurs et ils vont découvrir des nouvelles routes, notamment la route des Indes qui longe les côtes d'Afrique. Et il faut s'imaginer que c'est la première fois que les Européens découvrent l'Afrique subsaharienne. Les Portugais établissent alors des comptoirs commerciaux sur le littoral. Et au passage, ils vont découvrir l'ivoire. L'ivoire, l'or blanc. Et ils vont être tellement fascinés qu'ils vont l'exporter dans toute l'Europe. Que ce soit sous forme de matières premières, pour réaliser des objets précieux, des reliures de livres, des incrustations dans des coffres ou dans des meubles, des sculptures, des touches de piano. Mais aussi, ils vont l'importer par l'intermédiaire de l'art et de la sculpture africaine. Ainsi, au Bénin, au Ghana, et dans des pays où les traditions artistiques étaient déjà très développées, notamment dans la statuaire, ils vont se mettre à produire des sculptures absolument magnifiques, pour, justement, les marins portugais. Et on va les appeler les ivoires afro-portugais. Par exemple, il existe une salière qui se trouve au musée du Quai Branly. Elle date du XVIe siècle et elle a été commandée à un artiste du Bénin dans le Nigeria actuel. Trois marins sont sculptés dans cette corne d'éléphant d'une trentaine de centimètres. Ils soutiennent un grand globe terrestre, symbole de l'exploration du monde qu'ils entreprennent. Et au-dessus de ce globe, un navire est sculpté, au sommet duquel on distingue un poste de vigie occupé par un marin, tandis qu'un autre est en train d'escalader les cordages. Pas un millimètre de cette sculpture n'est pas ouvragé, avec une infinie précision dans le rendu des cordages, des vêtements, de la barbe des marins, du bois, du bateau, de l'océan, du globe terrestre. C'est un chef-d'œuvre absolu de l'art du royaume du Bénin, qui était l'un des royaumes les plus riches et les plus puissants d'Afrique de l'Ouest, et aussi l'un des plus raffinés artistiquement. Et leur sculpture, et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que leur sculpture, eh bien, elles ont ce mélange d'art figuré très réaliste et d'imagination totale sur certaines formes et proportions, et avec un travail des textures qui est très très hallucinant et très très précis. Et cette sculpture, elle est arrivée en Europe pour s'intégrer à une tradition complètement différente, celle des arts de la table. Alors, on l'a un peu perdue aujourd'hui, cette tradition, mais il existait en fait à l'époque, eh bien, une coutume, une élégance qui consistait à ce que, au sein des cours, il fallait disposer ce qu'on appelle des nefs de table, c'est-à-dire des sculptures, généralement de bateaux, sublimement travaillées par des grands artistes de l'époque, et qui allaient accueillir le sel ou les épices mises à disposition des invités. Et notre Salière du Bénin, eh bien, elle n'échappe pas à la règle, car le globe terrestre, qui est supporté par les trois marins sculptés, eh bien, il se divise en deux pour pouvoir recevoir les précieux condiments. Mais on commence à toucher à une des limites des métissages culturels dont on parle depuis tout à l'heure. C'est que, au moment même où se développe le style afro-portugais, au moment même où se développent les grandes découvertes, se développe aussi la traite négrière et un rapport de plus en plus dominateur de l'Europe face au reste du monde. Et du coup, l'art de l'ailleurs et la représentation de l'autre commencent de plus en plus à prendre une connotation morale, raciste et européano-centrée. Cette vision du monde raciste, c'est un problème récurrent dans l'art de l'ailleurs lorsqu'il est associé à une logique impérialiste. Parce que il commence à s'accompagner progressivement d'un sentiment de supériorité intellectuelle qui légitime un déni de l'autre et de l'ailleurs, et qui peut être d'une très grande violence, y compris dans les arts. Ça avait déjà été le cas par le passé, par exemple avec l'Empire romain qui a absorbé un grand nombre de cultures jugées inférieures. Ça a été le cas avec l'islam et la chrétienté qui ont été à plusieurs moments de leur histoire des religions dotées d'une mission salvatrice, qui justifiait la conquête des non-croyants et qui a souvent été très proactive et très violente, notamment dans le domaine des arts et de la culture. Mais ça prend des proportions gigantesques avec l'Europe à partir du XVIe et surtout du XVIIe siècle. Les avancées technologiques, la domination militaire et économique que cela a induit a pris des proportions jamais vues auparavant et inégalées dans le reste du monde. Et ça a été d'une telle ampleur que plus aucun domaine de la pensée n'en a été épargné. Et du coup, eh bien, ce sentiment de domination, il s'est infusé dans les arts. Voilà, donc ça, c'est le sujet eh bien, du prochain épisode en fait. Il sera consacré aux stéréotypes dans l'art de l'ailleurs. Et sur ces belles paroles, voici une chanson d'un autre temps, Les Trois Mandarins, de Ray Ventura.
Ping e pong e wing e wong e ho wan po U che u sin ta o, u che u sin ta o E sing e pao sing e su che u fei fu E toc a buen se tu Cette allocution abstraite Ayant paru claire à l'interprète Il dit simplement d'un ton pénétré Voici la traduction, l'on vous a dit entrez Quoi, c'est tout ? Dit le français surpris Un seul mot traduit leur parabole
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusque-là. J'espère que vous avez apprécié cette petite histoire concentrée, très succincte des métissages culturels à travers les âges et toutes les questions que l'on peut se poser lorsqu'on en parle. Et en attendant, eh bien, n'hésitez pas à en parler autour de vous et rendez-vous sur le compte Instagram art.talks.podcast pour découvrir toutes les œuvres discutées et à très vite pour le prochain épisode. Tchuss.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.